Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Alors, chapitre 14, et nous allons faire notre lecture à partir du verset 8. Acte 14, 8, à Lystre, se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, lui dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds !» Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant « Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte, nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien et en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. À peine purent-ils par ces paroles empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Voilà, eh bien, que Dieu nous enseigne ce soir sur un sujet qui est toujours d'actualité, qui a toujours cours dans notre monde. Pourtant, nous sommes au 21e siècle, hein. C'est la superstition. Vous savez ce que ça veut dire, la superstition? Et là, ce soir, à travers ce texte, cette méditation, nous avons à choisir entre Jésus et Jupiter. Voilà, je ne parle pas de la planète, hein. Mais c'est quand même une réalité. Parce que les hommes qui vivaient du temps de Paul, et puis les hommes qui vivent dans notre société moderne, quand on va un petit peu plus loin, quand on va un petit peu plus profond, on s'aperçoit que l'homme, le cœur de l'homme, est toujours superstitieux. Ça se décline sous d'autres manières, dans d'autres façons, mais c'est quand même de la superstition. Alors, on va tout simplement eh bien, prendre en considération ce qui nous est rapporté dans la lecture que nous avons faite et voir que Paul était véritablement l'homme suscité par Dieu pour eh bien, délivrer, apporter la délivrance dans les consciences, dans les esprits, dans les cœurs, à travers toutes ces traditions qui existaient de son temps, à travers tous ces rituels religieux, à travers toutes sortes de d'us et de coutumes qui finalement eh bien, n'étaient pas là pour apporter le bonheur aux hommes, mais plutôt les renvoyer dans, parce que c'est le produit de la superstition, les renvoyer dans la crainte et dans la peur. Voilà. Je ne fais pas ceci, je fais cela, je me protège avec ceci, je me protège avec cela, c'est pas la foi, hein. La superstition, c'est le contraire de la foi. Alors, j'aimerais introduire un petit peu cette pensée ce soir et nous allons nous replacer un petit peu dans le contexte historique. L'opposition contre le christianisme fait rage à ce moment-là, dans cette partie de l'histoire de l'Église primitive, et Paul et Barnabas, ces apôtres de Jésus-Christ, vont se réfugier dans une ville qui s'appelle Lystre. C'est dans la Turquie actuelle. Voilà. Hein, je ne sais plus si elle porte toujours ce nom, mais toujours est-il que de temps de porte, c'était la ville de Lystre. et trois incidents sont à relever sur le carnet de route des apôtres. Le premier, c'est « il est heureux ». C'est un incident heureux, nous pourrions dire. Le deuxième, c'est un incident douteux. Et le troisième, c'est un incident malheureux. Et nous allons voir un petit peu ce qu'il en est, ce qu'il en ressort. Le premier, c'est l'incident heureux, c'est la guérison, tout simplement miraculeuse, d'un boiteux. Nous avons également un curieux épisode en deuxième plan relatant cette maladie qui est la superstition dans une population, dans cette ville de Lystre. Et puis, le troisième, qui est véritablement un incident malheureux, c'est la tentative d'assassinat de l'apôtre Paul à travers le procédé de la lapidation. Et trois événements qui s'enchaînent, et on a du mal à comprendre le comportement finalement humain qui, devant un fait surnaturel, c'est-à-dire le premier incident, un homme est guéri au milieu de ces gens. Et nous voyons que ce fait surnaturel, donc cet homme qui est boiteux, impotent, va retrouver l'usage de ses jambes. Et cela va enthousiasmer la foule au point de prendre les messagers de l'Évangile, c'est-à-dire Paul et Barnabas, pour des dieux. Vous l'avez lu avec moi. On va rentrer dans le détail d'ici quelques instants, mais de dire, ce sont des dieux qui sont descendus sur la terre. C'est pas possible. Une telle chose, un tel miracle, un tel fait surnaturel, ils pensaient que c'était des dieux tout empreints de mythologie. Parce qu'il faut le remettre dans le contexte. On n'est plus en Israël, là. On est vraiment dans le monde païen, au possible, province de l'Empire romain. Et nous voyons que les gens vivent sans connaissance, qu'il existe un Dieu créateur et un Dieu sauveur. C'est pour ça que les apôtres sont là pour leur dire. Et comme tout fanatique, parce que la superstition, c'est vrai un état de peur, de crainte, de protection, d'espérance. Finalement, à la fortune, à la santé, à tout ce que vous pouvez imaginer. Ça marche dans les deux sens, C'est le bien et le mal, On veut le bien et on se protège du mal. Et on s'aperçoit que tous ces gens qui sont quelque peu un tantinet fanatiques, puisqu'ils pensent que Paul et Barnabas, ce sont des dieux. Donc, ils se mettent ça en tête et ils se disent, mais véritablement, il faut faire quelque chose pour eux. Et ce sont des fanatiques déçus parce que Paul va refuser. Il va dire, mais on est des gens de la même nature que vous, nous on n'a rien de plus. Nous apercevons que le fanatisme, ou le fanatique, quand il est déçu, est enclin à brûler ce qu'il adore. Et là, ils vont prendre des pierres à un moment donné, puisque Paul a refusé l'adoration, comme il croit ferme que ce sont des dieux, ils vont prendre des pierres pour le lapider, et ils vont le lapider. Fort heureusement, il n'en mourra pas. Et nous voyons que les gens de Lystre vont s'emparer de Paul à un moment donné, et vont le laisser quasiment mort, sous les jets de pierre. C'est ça la lapidation, c'est quelque chose de terrible. Dans la Bible, il nous est parlé de la crucifixion, c'est affreux, et la lapidation chez les Juifs, c'est pas moins affreux que finalement tout le reste. C'est terrible. Alors, c'est une histoire dans laquelle nous allons rentrer brièvement, et qui en dit long sur les méfaits de la superstition et la confusion où elle conduit ses victimes. Parce qu'on pourrait penser que Paul était victime naturellement de ce délire et cette dérive. Mais ceux qui étaient là à prendre des pierres et puis à vouloir adorer Paul et Barnabas, ils étaient victimes aussi. Victimes de quoi? De celui qui inspire la superstition. Vous savez que, pour remettre les choses au clair dès maintenant, la Bible nous inspire la foi. Et la foi, elle produit la paix, la joie et le calme. C'est exactement le contraire. La foi, c'est un abandon en disant, moi je remets ma vie, quelles que soient les circonstances ou les incidents et les accidents de mon existence, je te remets, Seigneur, entre tes mains, toute ma vie, et c'est toi qui vas maintenant me conduire et me porter, me délivrer, me guérir, me sauver, me pardonner. Voilà, c'est un état moral, c'est une position de cœur qui nous fait que nous faisons confiance tout, et sans crainte, sans avoir d'appréhension d'une manière ou d'une autre. Alors, on va revenir au premier fait. Il nous est dit que à Lys, dans cette ville, il y avait un homme de la population, c'était un homme qui habitait probablement la ville, et qui était connu depuis toujours probablement, parce qu'il était impotent des pieds, boiteux de naissance, naturellement, c'est précisé, et il n'avait jamais marché. Tout le monde le connaissait à Lystre, pour la bonne raison que c'est pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas d'allocation pour les handicapés ou les infirmes. Et celui qui était réduit à cette extrémité, alors naturellement ne pouvait pas travailler, et il était réduit à la plus simple expression, tout simplement de la mendicité, à tendre la main pour qu'on veuille bien lui donner quelque argent ou un peu de nourriture chaque jour. Et voilà que cet homme s'est trouvé à l'arrivée de nos apôtres, de nos évangélistes, les deux que nous avons cités. Il s'est trouvé là finalement près d'eux, alors que Paul était en train de parler à la population, comme il le faisait vraisemblablement quand il arrivait dans une ville. Il nous est dit qu'il écoutait parler Paul, et il s'est passé quelque chose tout à fait particulier à ce moment-là. C'est que pendant que Paul prêche, Dieu va accomplir un miracle. Imaginez-vous, au moment où Paul est en train d'annoncer cette parole, Dieu va se manifester. Cet homme paralysé, je le rappelle, qui n'avait jamais marché, écoute attentivement le message. Il nous a dit qu'il écoutait Paul parler. Je voudrais faire une petite précision. Écouter et entendre, c'est deux choses différentes. Vous avez remarqué avec moi, il n'est pas dit qu'il entendait Paul parler, mais qu'il écoutait. Donc il devait y avoir probablement une attention soutenue, particulière, soulignée, qui faisait là que, quelque part, il était dans une disposition qui va amener ce qui va arriver par la suite. Donc Paul, le texte nous le rappelle, à ce moment-là s'est arrêté probablement de parler. Il a regardé cet homme, il a fixé les regards sur lui, et il a vu une chose chez cet homme, à la suite de son écoute de cette parole que Paul prononçait. Il nous est simplement souligné qu'il a vu, l'apôtre Paul a vu qu'il avait la foi pour être guéri. Alors ça c'est quelque chose qui nous est montré, qui nous donne véritablement un sens à cette atmosphère qui existait au moment de la prédication de l'Évangile. Il y a des gens qui entendent le message de l'Évangile, mais qui ne font que l'entendre. Je dirais qu'il y a des hommes qui écoutent, et là, il y a une pénétration au niveau de leur cœur, de leur intelligence, de leur esprit, de leur conscience. Et ça change tout. Je citerai tout simplement de mémoire ce qui nous est dit dans le livre des Psaumes, et il nous est rapporté à un moment donné, cette parole, une belle parole, que quand on tourne les regards vers lui, vers Dieu, on est rayonnant de joie. Cet homme probablement manifesté une foi singulière au moment où Paul parlait. Et il a fait la démonstration et Paul l'a vu. Il est quelquefois remarqué dans nos réunions qu'il y a des hommes et des femmes qui nous rejoignent, qui viennent avec leurs soucis, leurs problèmes, accablés de toutes sortes de choses, écrasés par la vie. Et en entendant l'Évangile, j'ai quelquefois remarqué que malgré toute la peine qu'ils peuvent avoir ou toute la misère qui est la leur, en entendant le message de l'Évangile, c'est comme s'il y avait sur leur visage l'expression d'un cœur qui s'ouvre à travers une attention, à travers peut-être même un sourire, à travers comme un rayonnement. Ça, je l'ai vu à plusieurs reprises. C'est vrai pour des gens qui nous rejoignent qui n'ont jamais entendu l'Évangile, mais c'est vrai aussi pour des chrétiens qui aussi peut-être perturbés par des états, des conditions de vie, en entendant l'Évangile, entendent d'une manière tout à fait particulière, écoutent d'une manière particulière, la parole de Dieu, et qui va les amener à faire une expérience avec le Seigneur. Et nous voyons que il écoutait attentivement le message, et Paul devait parler en grec. Oui, parce que c'était finalement la langue. Et je pense que cet homme qui devait parler le lycaonien, c'est pas facile, ça doit être une langue qui a disparu maintenant, je ne sais pas s'il y a encore quelques vestiges dans notre temps, mais il n'avait peut-être pas tout compris ce que disait Paul, mais il avait compris l'essentiel. Et ça c'est pour nous montrer encore une fois c'est que ce qui est extraordinaire est très souvent chez les gens qui s'ouvrent à l'évangile, même si on ne comprend pas tout, le peu suffit pour nous donner la foi. Ouais. Et ça c'est quelque chose aussi à dire et à souligner. Alors voilà donc, cette foi est inspirée par la parole de Dieu que Paul prêche et elle jaillit dans le cœur de cet infirme et l'apôtre peut constater à ce moment-là que son cœur n'est pas imperméable, au contraire, c'est le contraire. Cette parole est prise, elle est saisie et je dirais que cette perméabilité de son cœur, de sa conscience et de son esprit, eh bien c'est une perspicacité, c'est ce qu'on appelle la perspicacité, il comprend. Avait-il encore l'espoir de marcher un jour? Il ne savait pas ce que c'était puisqu'il était boiteux de naissance. Il ne pouvait avoir aucune idée, sinon de voir les autres marcher, mais lui, ça lui était interdit. Alors, il pouvait peut-être raisonnablement se dire, mais moi, je ne marcherai jamais, c'est pas possible. C'est inconcevable peut-être, mais toujours est-il qu'il a compris que le Dieu que Paul prêchait, c'était un Dieu grand et puissant et qui pouvait faire quelque chose pour lui, et il a fait ce qu'il fallait. Alors, quand Dieu parle, il y a aussi des actes qui suivent. Et Paul va lui intimer l'ordre, « Lève-toi, dira-t-il, droit sur tes pieds. » Voilà, on ne peut pas dire que c'est une demande très difficile. Enfin, difficile à dire, oui, facile à dire, mais peut-être difficile et certainement difficile à dire, à faire pour cet homme. Un ordre qui n'est pas le produit du hasard. Pourquoi? Il y a des paroles dans la prédication, parfois, ce qu'on appelle des paroles de connaissance. Pourquoi il y a parfois une parole particulière qui nous est donnée par un ami chrétien qui nous rencontre et qui va nous dire les mots qui sont nécessaires à notre délivrance, qui vont nous toucher profondément. Je recevais un mail ce soir d'une jeune fille, une jeune femme maintenant, que nous avons connue il y a quelques années, et qui a fait une expérience avec le Seigneur, et elle me rappelait dans ce mail, elle m'a dit, mais écoutez Alain, vous m'avez dit telle et telle parole après une réunion d'évangélisation. Je m'en souviens encore aujourd'hui. Parce que c'était quelque chose qui m'a marqué profondément. Mais moi je m'en souviens pas du tout. Mais c'est pour dire, quelquefois nous sommes amenés à dire des mots, à prononcer peut-être même un verset biblique, et quelque chose de tout à fait particulier qui peut bouleverser complètement et totalement la vie de quelqu'un. Ouais, ça c'est extraordinaire. Et je dis encore, avec Dieu il n'y a pas d'hasard. Le hasard est cousin germain et engendre la superstition. Le hasard n'existe pas. Ça, il faut bien que nous nous débarrassions de cela. Et je le dis à dessein parce que nous allons voir ce que c'est que la superstition un petit peu plus tard. Instantanément, la puissance de Dieu est agissante. L'infirme se tient debout et il se met à marcher. Et ça a dû être un crédit extraordinaire au message de l'évangile. La chose est dite et elle s'accomplit. Lève-toi, prends ton lit, mets-toi debout et marche. Et voilà que cet homme, il se leva d'un bond et il marcha. Je rappelle, la foi est un élément moteur, capital, qui a guéri cet homme, et cette foi n'a rien à voir avec un acte guérisseur ou de superstition. Il y a la Bible, la parole de Dieu, l'action de Jésus, et puis il y a tout le reste que nous allons voir, qui vient d'ailleurs, dont l'origine est d'une autre nature, et qui n'est fait que pour induire les hommes et les femmes qui s'y prêtent en erreur, et à la confusion, et à la déception. Donc, deux choses à retenir avant de passer à autre chose. L'écoute de la parole de Dieu, c'est ce que nous faisons en ce moment. L'adhésion de cœur de celui qui écoute et qui croit. Et à ce moment-là, la foi va se transformer, ou la démarche de confiance plutôt, va se transformer en un mot que vous connaissez bien, une conviction. Et quand quelqu'un a une conviction dans son cœur, vous ne le ferez pas changer. Il est convaincu parce que ce n'est pas un homme qui le convainc, mais c'est Dieu. Le deuxième fait est beaucoup plus douteux. Je vous dis, le premier, c'est quelque chose d'heureux. Un homme est guéri par la foi au nom de Jésus-Christ. Le deuxième, c'est douteux. Et ça mérite que nous nous y intéressions quelques instants. La guérison de cet homme boiteux de naissance produit un effet ou son effet surprenant sur la population païenne de l'Istre. Les gens qui l'avaient toujours connu boiteux le voient sauter, marcher, et ils se disent « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Alors, le fait même de cet acte surnaturel, eh bien, va soulever ce que nous pourrions appeler un enthousiasme fou, peut-être voire même délirant. Parce que c'est le monde de l'émotion. C'est pas le monde de la conviction. C'est le monde de la sensation. C'est le monde de l'âme humaine, en quelque sorte. Et il va y avoir comme une levée à ce moment-là. La foule va se soulever et ça va la surexciter. Ouais. Parce que les gens vont s'imaginer que les dieux, leurs dieux à eux, selon leurs us et coutumes, selon leur religion païenne, eh bien que les dieux sont apparus sous une forme humaine, puisqu'ils en donnent la preuve, ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui apportait la parole. Jupiter. Vous avez entendu parler de Jupiter, Zeus chez les Grecs. Baal fait partie, c'est le père des dieux. Ra en Égypte. Et si vous regardez, il y en a plein, hein, je me suis un petit peu penché sur le problème cet après-midi, mais quand vous regardez finalement toutes les religions de l'Antiquité, ils portent des noms différents, mais c'est tous le même, Jupiter. Et il y en a d'autres, hein, chez les hindous, j'ai vu ça aussi, dans différentes parties du monde de l'époque, hein, de l'Antiquité, du bassin de la Méditerranée, hein, chez les Phéniciens, etc. Voilà. Alors, le Père des dieux. Quelle différence y a-t-il entre Jésus et Jupiter ? Jésus, le Fils de Dieu, Jupiter, le Père des dieux, appelé par les hommes. Il y en a un qui dira... Je suis doux et humble de cœur. Et l'autre dira, si vous n'êtes pas sorti de ma cuisse, vous connaissez, hein? Voilà. Donc vous avez compris, hein? Le dieu de l'orgueil, le dieu de la prétention, tout ce que vous voulez, sorti de l'imagination des hommes. Parce que quand on connaît un petit peu, je sais pas, vous avez peut-être étudié la mythologie à l'école, c'est très intéressant, hein? Faut quand même le connaître, hein? Parce que quand on prêche la Bible, il faut connaître ça. Parce que c'est quand même la culture dans laquelle les premiers croyants, et entre autres les hommes comme Paul et puis tous les autres, quand ils ont été évangélisés le monde, c'est avec ça qu'ils se sont trouvés confrontés. C'est avec ce genre de paganisme, la mythologie romaine, grecque, et puis bien d'autres naturellement, mais celle-ci en particulier, particulièrement celle-ci. Alors, nous voyons que là, il y a un choix à faire. Est-ce que ces païens vont devenir chrétiens, ou alors à ce moment-là, ils vont refuser et puis ils vont rester dans leur misère. L'extraordinaire ouvre parfois la porte à l'irrationnel et à la spéculation. Alors c'est vrai, c'était vrai, mais ça l'est encore aujourd'hui. Vous savez, nous avons grand intérêt à rester sur les déclarations de la parole de Dieu, de rester sobre et de ne pas nous prendre et de nous laisser emmener dans toutes sortes de déviances, de déviations, de superstitions, de toutes sortes de choses qui semblent peut-être avoir une origine divine, mais qui n'est que pseudo-divine, dont l'occultisme, la magie, un pseudo-évangile même, je voudrais quand même le signaler, animé par des faux prophètes ou des fausses prophétesses, avec des gens qui disent... l'avenir, qui raconte n'importe quoi, même de se servir de l'évangile, même du nom de Jésus, particulièrement la Bible, ça ne les dérange pas. Mais qui là, eh bien, sont complètement eux-mêmes partis dans toutes sortes de déviances, dans toutes sortes de dérives, et entraînant les autres. Vous avez des cas comme ça. Je pense à la Pythonisse. Je pense à Simon le magicien. L'histoire de Balaam. Je pense à Jézabel également. À la fois dans l'Ancien Testament comme dans le livre de l'Apocalypse. Des gens qui se prennent la tête. Parce que l'origine de leur prétention ou de leur excitation, c'est tout simplement, elle ne vient pas de Dieu. Elle vient de l'ennemi. Qui les a complètement séduits et qui leur fait faire ou croire n'importe quoi. L'irrationnel et la spéculation, c'est le monde des sectes, n'est-ce pas? Alors vous n'allez pas me dire que les sectes n'existent pas aujourd'hui. Hein. Quand on voit les choses farfelues et complètement aberrantes qui existent dans notre monde, oh, et voilà. Comment une telle méprise est-elle possible? Alors moi je voudrais vous donner quelques pistes de réflexion brèves. L'homme par nature, dans ce que nous sommes, sans être converti à Jésus-Christ, qu'il soit croyant ou non, est religieux. Ah, vous allez me dire s'il est croyant, il est religieux, ou s'il n'est pas croyant, il ne peut pas être religieux, s'il n'est pas croyant. Eh bien si. En tous les cas, il y a toujours un fond religieux chez l'homme. Il a un besoin inné de croire en quelque chose. C'est viscéral. Et même dans les sociétés très matérialistes, comme on en a connu dans le XXe siècle, eh bien l'homme croit quand même en quelque chose. S'il ne croit pas en Dieu, il croit en l'homme. Il croit en lui-même. Il croit dans sa force, dans sa science, dans son intelligence. Il croit dans quelque chose. Donc, et il va faire, finalement, de cette idole, l'homme, une religion. C'est pour cela que, par exemple, dans les pays marxistes, on adorait les chefs. On les adorait. Il y avait des statues partout. On les vénérait. Donc l'homme croit, il y a quelque chose. Or, si ces croyances ne sont pas étayées par la parole de Dieu, le pas entre le vrai spirituel et la superstition est vite franchi. Nous avons besoin du réflexe de la parole. Nous avons besoin de voir ce que nous dit la parole. Nous avons besoin de mesurer les choses et d'apprécier les choses, de les analyser avec ce que nous dit la parole. Il y a un vrai spirituel divin et il y a un faux spirituel que l'on appelle le pseudo-spirituel. L'occulto-religieux, ça existe. Et ça existe encore aujourd'hui. Alors méfions-nous. On sait tous que les peuples de l'Antiquité était pétri de légendes et de mythologies. Vous ne croyez pas que notre christianisme d'aujourd'hui, pas le nôtre, mais celui qui est culturel, celui qui est historique, n'est pas pétri de superstitions et de légendes? Allez faire un petit tour, on est dedans déjà en Bretagne. Vous allez voir toutes les histoires qu'il peut y avoir. Vous allez dans la forêt d'Elgouat, hein, vous connaissez, hein, ou je ne sais quelle, et vous avez toutes sortes de choses, des rochers, enfin. Mais relisez l'Ancien Testament, vous verrez que même les Israélites, eh bien, sacrifiés sous les arbres verts, ils se mettaient dans les forêts, etc. C'est de la légende, et on nourrit toutes sortes de choses. Ça fait partie, parler de la culture régionale, mais ça n'a rien à voir avec l'Évangile. Vous avez vu la croix, que l'on appelle la croix celtique avec un cercle autour, hein. Ben, c'est pas chrétien, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, puis toutes sortes de choses. Alors, c'est quand même intéressant de le savoir tout cela. À la base de toutes les formes d'égarement, il y a l'ignorance et l'interprétation de ce que l'on croit être finalement divin. Or, on se dit, mais ça vient de Dieu, parce que on parle de Dieu. On parle du respect de la nature, on parle de l'adoration de la nature, on parle de ceci, de l'homme, etc., etc. On croit que c'est divin, on croit que ça vient du divin, mais c'est tout simplement, purement et simplement naturel. Et attention, derrière le naturel, vous savez comment le naturel en est ressorti du chapitre 3 du livre de la Genèse? Pécheur et corrompu. Ça, c'est le naturel. C'est pour ça que la lance de l'Évangile nous amène, eh bien là, à changer et de passer de l'état naturel à un état spirituel. C'est plus la matière, c'est l'esprit, mais l'esprit de Dieu, hein. Attention, parce qu'autrement, on est entre les mains d'un autre monde d'esprit. Et la preuve, nous l'avons, parce que quand les habitants de l'Istre ont vu le miracle de la guérison de cet homme, alors ils ont appelé Barnabas, donc Jupiter, Zeus, le père des dieux, je l'ai dit tout à l'heure, et Paul, Mercure, c'est-à-dire Hermès. Vous savez, celui qui porte des messages, là, le facteur de service, hein, le préposé des postes, Hermès, celui qui porte des messages. Voilà, hein, ce qu'il est, il a porté la. Pourquoi cette histoire? Je vous laissais un petit peu. Il y a quand même des raisons. Pourquoi ces gens sont-ils tombés dans la superstition? Ils ont-ils voulu adorer Paul et Barnabas? Alors, je vais faire une petite, très peu, hein, Mais ça remonte à une histoire qui est une légende, un conte, qui nous montre quand même pourquoi les gens croyaient-ils ainsi et qu'ils avaient du mal à croire en Jésus-Christ. Ovide, l'écrivain antique, rapporte un vieux mythe, mythologie, dans lequel Zeus et Hermès, les deux personnages, sont descendus sous les traits de mortels et sont venus dans la contrée de la Phrygie, c'est-à-dire la région, ou à peu près dans la région que nous sommes en train de parler à l'Istre. C'est des fantasmes, hein ? Mais les gens vivent avec des fantasmes et des rêves, avec des légendes et des contes. Et c'est ce que nous retrouvons. Et quand ces dieux imaginaires, l'histoire nous raconte qu'ils ont été repoussés parce qu'ils n'avaient pas été accueillis par la population de la région. Sauf un vieux couple, peut-être en avez-vous entendu parler, Philémon et Baucis, ont recueilli ces faux dieux, et comme ils avaient été repoussés, ces dieux, parmi les humains, parmi les hommes, le jugement qui s'en est suivi fut une terrible inondation qui a englouti la population. Cette légende, et je dis bien cette légende, est entrée dans la culture et dans les us et coutumes de ces gens que Paul visitait à ce moment-là, et ne voulant pas que l'histoire se répète et que les dieux se vengent tout à nouveau, finalement, cette fois, ils ont accueilli les faiseurs de miracles comme des dieux. C'est pas né de rien du tout. C'est qu'il y avait une superstition, il y avait une légende. Regardez comment les gens, même religieux, se nourrissent de légendes encore aujourd'hui. Je regarde ça de temps en temps, des reportages, soit en Bretagne ou dans d'autres régions de notre pays. Mais les gens reposent sur des légendes. Mais je me dis, mais c'est pas vrai, Seigneur, il ferait mieux de lire la Bible que de vivre sur des choses, que de vivre et se nourrir avec des superstitions, toutes sortes de choses. Alors on comprend que les habitants de l'Istre, parce que c'était quelque chose qui était courant dans leur tradition, cette vieille histoire qui n'existait pas, et qui nourrissait leurs fantasmes, leurs rêves, leurs peurs, leurs craintes. Alors, quand ils ont vu ces gens qui ont fait le miracle, ils se sont dit, c'est Zeus et Hermès qui descendent encore sur Terre. Alors là, maintenant, il faut les accueillir, parce qu'autrement, excusez-moi, on va boire la tasse, puisque c'était précédemment une inondation. Voilà. Je raconte cette histoire pour vous montrer la pertinence qu'il y a aussi la pertinence et tout ce qu'il peut y avoir d'imagination, d'imaginaire dans notre monde d'aujourd'hui. Les saints, les saintes qui apparaissent, qui font ceci, qui touchent un rocher, qui sont en train qui sont baignés dans une rivière et puis après tous les malades y vont parce qu'ils vont être guéris et tout ça. Mais écoutez, on est loin de la foi, et c'est pourtant des populations chrétiennes qui pensent à ça, qui croient à ça. Alors on leur fait des statues, on leur fait des chapelles dans les sous-bois et toutes sortes de choses, et puis quelquefois, on remet ça au goût du jour aujourd'hui. Il y a même la télévision qui y va, parce qu'il y a des centaines, des milliers de personnes qui y vont dans des pèlerinages, et se disent, quelle misère. Je respecte ces gens, mais je me dis, mais quelle misère et quelle responsabilité. Ceux qui savent et qui ne disent rien. Ou qui ceux qui utilisent à des buts finalement d'argent, pour récupérer de l'argent, parce que de toute façon ça va jamais sans. De toute façon ça va jamais sans. Je continue. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrir un sacrifice. Ils avaient sous la main Paul et Barnabas en disant, mais écoutez, on vous considère comme des dieux, vous avez fait un miracle, alors on va vous offrir un sacrifice comme ça se faisait à l'époque, on va égorger un taureau, puis après on va faire la fête. Comme ça que ça se passait, parce que le taureau il mangeait, faut pas se faire d'illusions. Il laissait pas comme ça. Les prêtres, le temple, les sacrifices, voilà tous les ingrédients d'une cérémonie païenne se voulant à l'honneur de Dieu. Tiens, dites donc, ça vous rappelle rien une fête qui un jour s'est passée dans le désert où les Israélites à la sortie d'Égypte, qu'est-ce qu'ils avaient fait là? L'histoire du veau d'or. Ah oui, c'est les débuts de la fausse religion, le veau d'or. Ah oui. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la fête. Ils ont tellement fait la fête que ça s'est tourné à l'orgie. Et souvent, les fêtes païennes, ça se tourne à l'orgie. Parce que l'idolâtrie, ça amène à la dépravation, à la corruption et à toutes sortes de choses impures. Un exemple parmi d'autres, d'où naissent les légendes populaires et les superstitions, qui avec le temps finissent par être acceptées comme des vérités. Eh oui, il y en a tant d'exemples comme ça. Sous d'autres formes, notre monde actuel est plein de ce genre de croyances invraisemblables, sur lesquelles on a passé un vernis de christianisme. Ce sont toujours ces vieilles légendes du paganisme d'hier, de l'Antiquité, mais on y a mis des noms chrétiens. Saint chose, saint... Les uns les autres, alors ça fait bien. Et comme les gens ne lisent pas l'Évangile, comme les gens ne comprennent pas et ne savent pas et ne désirent même pas savoir qui est Jésus-Christ, leur Sauveur, celui qui est venu leur apporter cette parole, quand il est dit ceci, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, elle vous donnera la liberté. » C'est l'Évangile qui donne la liberté et qui nous affranchit de la superstition. Toutes ces sources soi-disant miraculeuses, ces calvaires ou chapelles qui sont dédiées à tel saint et les grottes et toutes sortes de choses, toutes ces apparitions qui nourrissent l'imaginaire religieux des gens, qu'on offre à la dévotion des populations et les gens y croient, dur comme fer, comme on dit, hein, dur comme fer. Alors le prêtre et la foule voulaient offrir un sacrifice. Et ça a été une situation très embarrassante pour les apôtres. Et leur réaction ne tarde pas, parce que Paul, à ce moment-là, eh bien, va déchirer son vêtement. C'est un signe de protestation et un signe de rejet, en quelque sorte, hein, qu'ils vont manifester. Et ils vont dire quelque chose. Ils vont rétablir la vérité devant des gens, devant ces gens-là. Ils vont dire aux hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Oui, parce que Paul et Barnabas sont des gens qui ne veulent pas recevoir l'hommage ou la gloire à la place de Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu qui reçoit la gloire et l'hommage des hommes. Il ne faut pas l'oublier. Or, la superstition religieuse et tout ce monde d'occulto-religieux amène l'adoration, finalement, eh bien aux hommes, tout simplement. Oh, c'est Paul qui nous le dit d'une manière très très particulière. Écoutez, quand dans Romains chapitre 1er et au verset que je retrouve rapidement, il est dit ceci au verset 21, me semble-t-il. Voilà, c'est le verset. Il nous est dit que les hommes se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Et ça, c'est pas seulement une impureté physique, mais une impureté morale et spirituelle. Il les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. L'homme a changé la gloire de Dieu. Il a dénaturé, finalement, eh bien, ce qu'il y avait de vrai, de juste, de pur et de saint. Et il se l'est approprié. Il a adoré la créature au lieu du créateur. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un sacrilège. On n'adore que Dieu. Et non pas les hommes. Et non pas la créature. Alors, ils sont indignés, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Les apôtres sont indignés, ils vont déchirer leurs vêtements en signe de protestation. Et ils vont dire, mais pourquoi agissez-vous de la sorte? Alors s'ils avaient répondu, ils auraient dit, mais parce qu'on ne nous a jamais montré autre chose. Ou peut-être que nous n'avons jamais voulu savoir autre chose, parce que vous savez, quand les gens sont enferrés, quand ils sont prisonniers, quand ils sont passionnés d'une culture, il y en a qui sont respectables, mais qui sont prisonniers de toutes sortes d'occultisme, de superstition, de magie, pour les en faire sortir, c'est terrible. Peut-être qu'eux aspireraient à en sortir, mais il y en a un qui, dans l'invisible, eh bien, les écrasent et les ramènent dans leurs prisons. Et ce sont des prisons, je voudrais vous le dire, sans barreaux ni portes de fer, mais ils ne peuvent pas en sortir quand même. Pourquoi agissez-vous de la sorte? Et il leur dira, mais nous sommes des hommes comme les autres. Qu'est-ce que vous imaginez? Nous ne sommes pas des anges, nous ne sommes pas des dieux, nous sommes des hommes qui apportons une bonne nouvelle, dira-t-il. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve. Qu'est-ce que nous faisons quand nous prêchons l'Évangile? Nous disons aux hommes, aux femmes, à tous ceux qui sont des auditeurs du message de Jésus-Christ, nous leur disons, mais tournez-vous vers le Seigneur, abandonnez toutes ces choses, Laissez ces choses derrière vous. Mais il y a un tel poids de conformisme. Il y a une telle pression familiale, ou tout simplement, eh bien, une pression sociale. Et encore aujourd'hui, nous sommes dans un pays où il y a beaucoup plus de liberté qu'il y en avait dans le temps. Hein. Oui, parce que les gens font un petit peu ce qu'ils veulent, et ils choisissent ce qu'ils veulent. Mais dans le temps, ça devait être très difficile, pendant des siècles et des siècles, de devenir chrétien, d'aller à contre-courant de la religion, hein, et des superstitions. C'est pour ça qu'il y a eu des guerres de religion. Ça, c'est terrible. Nous vous annonçons une bonne nouvelle, et nous vous supplions, nous vous en conjurons, mais de vous tourner vers le Dieu vivant. Parce que tous les dieux qu'ils adoraient, c'était des dieux qu'ils voyaient en pierre, en plâtre, en bois, des idoles, des pénates, toutes sortes de choses. Semblables, comme aujourd'hui, il y a beaucoup de maisons qui sont encore pleines de toutes sortes de statues, d'effigies, de statuettes et toutes sortes de choses. Et les gens y recourent quand ça va mal. Ils ne pensent pas. Hein, mais ils y recourent. On va faire une petite prière et ceci et cela. Mais ça, c'est du physique, c'est du sensuel. Ce n'est pas, comme dit Jésus, les vrais adorateurs et ceux qui prient, ce sont ceux qui adorent et qui prient Dieu en esprit et en vérité. Voilà, tout simplement. Et renoncez ces choses. Et vous vous tournez vers le Dieu vivant. Parce que c'est lui qui donne la vie, c'est lui le vrai Dieu. Vous ne le voyez pas, mais il est là. Il existe, il est tout puissant. C'est lui qui a fait le ciel, la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve. Et Paul va poursuivre, va dire, mais ce Dieu dans les âges passés a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien et en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, et en vous donnant la nourriture en abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Bravo Paul, il était véritablement dans un terrain qui n'était pas le sien, il était juif, il était dans un milieu païen, mais il n'aura pas parlé comme à des juifs. Parce que s'il leur avait parlé comme à des juifs, il s'est servi de quoi? De la loi de Moïse. Mais là, pas un verset, pas une citation de la religion d'Israël. Il leur parle de la nature, il leur parle du ciel, parce que c'est avec ça qu'ils connaissent. C'est comme quand Paul ira à Athènes, il tiendra un langage qui ne sera pas un langage de théologie juive, mais tout simplement il leur parlera de la nature. Une belle adaptation de ce que peut être l'évangile dans un milieu où on ne connaît pas Dieu. Il va leur dire, mais regardez, vous, le ciel, vous êtes des hommes, regardez la pluie, regardez la fertilité de la terre, regardez votre travail, mais n'oubliez pas que c'est ce Dieu-là, créateur, qui fait tout cela pour que vous viviez sur cette terre, que vous connaissiez le bonheur et la joie, et que finalement, derrière tout cela, il ne veut pas se contenter que vous soyez ces créatures, mais il veut que vous deveniez ses rachetés. Ce Dieu-là que je vous apporte, c'est un Dieu qui est votre créateur, mais qui est aussi votre sauveur. Ouvrez vos cœurs. Ouvrez vos cœurs et vos vies. À peine put le tir par ses paroles empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. C'était pas facile, hein? Pas facile. Je termine. Troisième point, dernier point, bref. C'était véritablement l'aspect de l'incident malheureux. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs, qui gagnèrent la foule, parce qu'ils sont venus dans la ville de Lystre, et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville. Je vous l'ai dit, hein, Paul a eu un peu le même sort que Jésus. Jésus a fait du bien. Il a guéri les malades, il a fait marcher les boiteux, les paralytiques, etc., etc. Et vous savez comment il a été traité, Jésus? Eh bien, on lui a fait la même chose. On ne l'a pas lapidé, Jésus. On l'a crucifié. Parce qu'il a porté la vérité. Parce qu'il a porté l'affranchissement, il a porté la liberté des consciences. Et on a voulu se débarrasser de lui. Pendant un moment, Jésus était une idole. Pour tous ceux qui voyaient les miracles, qui entendaient, on le suivait. On venait de toutes les régions de la Palestine, on venait de tous les endroits. Et on a un jour, après la multiplication des pains, on a même voulu faire de Jésus roi. Et vous savez ce qu'il a fait? Il s'est faufilé. Il n'a pas voulu accepter l'hommage des hommes. Parce que l'homme est tellement versatile. Aujourd'hui, il t'élève et demain, il va te détruire. C'est ça, la passion. C'est ça, l'idolâtrie. C'est ça, la superstition. Alors, le pauvre Paul, il a ramassé des pierres. Alors, on l'a traîné hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais il n'était pas mort, parce que sa mission n'était pas finie. Et je crois que quand on touche à l'édifice de l'occultisme, de la magie, de la superstition, de l'occulto-religieux, excusez-moi, hein, mais on touche à des puissances infernales, des puissances de ténèbres. Ouais, ça faillit coûter la vie à Paul. Le monde du diable a voulu détruire finalement Jésus, mais grâce à Dieu. Il fallait qu'il meure pour chacun d'entre nous, pour que nous connaissions la vérité. Il fallait que nous soyons délivrés de ces chaînes et de ces liens, de cette puissance de peur et de crainte. Et c'est pourquoi la mort n'a pas retenu Jésus. Il est ressuscité et c'est pourquoi il peut nous délivrer encore aujourd'hui. Alors que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce et on va prier quelques instants et que des hommes et des femmes, en entendant cette parole ou en entendant ce message, eh bien puissent dire, eh bien Seigneur, je me tourne vers toi parce que tu es le Dieu vivant et vrai, tu es mon créateur et je sais maintenant que tu es mon sauveur et mon libérateur de toutes ces puissances mauvaises qui me détruisent. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Et te remercier, Seigneur, parce que ta parole, elle est puissante. Ta parole, Seigneur, elle est incisive. Et Seigneur, comme cet homme qui était guéri alors qu'il était malade et qu'il a pu marcher tout à nouveau, eh bien nous croyons, Seigneur, qu'il y a des hommes et des femmes dans notre monde encore d'aujourd'hui qui sont paralysés, Seigneur, par l'occultisme, la magie, la superstition, la crainte, la peur et toute cette exploitation, Seigneur, de légendes et de contes qui n'ont rien à voir, mais rien à voir avec le message pur de l'Évangile, qui est un message de liberté, de lumière et de vérité, et qui procure, Seigneur, dans le cœur de celui qui, eh bien, s'ouvre à Dieu, en effet, la paix, la joie, la liberté. Seigneur, tu bénis, tu nous conduis, et nous te remercions, Seigneur, parce que, en effet, aujourd'hui, tu nous dis, eh bien, lève-toi et marche. Eh bien, nous voulons marcher dans la vérité. Envoie, Seigneur, sur eux, eh bien, tous nos amis, l'esprit de vérité et l'amour de la vérité. Merci Jésus. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.